Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue. Le forum de la presse d'aujourd'hui réfléchit sur deux sujets, l'insécurité dans le pays et la mort de 48 migrants maliens dans la mer en tentant de regagner l'Europe. Nos invités sur ce plateau, tous journalistes, Badou Escoba, directeur de publication du journal Carrefour, Boubacar Boukoum, correspondant du studio Tamani à Mopti, Lamfia Sinaba, journaliste écrivain, Abdoulaye Fama Koulibaly du journal Le Combat. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Nous allons ouvrir les débats aujourd'hui avec la dégradation de la situation sécuritaire au Mali. Le gouvernement malien va lancer une vaste opération de sécurisation dans le centre du pays, dont une partie est sous le contrôle de groupes armés djihadistes. L'information est rapportée par l'AFP qui cite des sources officielles maliennes. Alors, Monsieur Koulibaly, nous allons commencer par vous. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation ?
Bon, il y a plus grave que l'insécurité au Mali. À Tekere Moussa, dans la contrée de Kourouma, un peu pas trop loin de Diabali, là-bas, c'est la charia. Les femmes ne se mêlent pas des hommes. Ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de l'État sur ces zones-là. Pourquoi cela ? Parce qu'il y a Amadou Koufa qui règne là-bas, un pacha. Donc, c'est au-delà de l'insécurité. Parce que nous perdons, nous n'avons pas, l'État n'est pas là. Je pense qu'il faut faire en sorte que tout le territoire soit dans le giron de l'État, que l'État ait l'autorité partout. Et à partir de quoi on peut combattre cette insécurité qui est de plus en plus récurrente. Mais je crois qu'il y a assez de militaires au Mali. Il s'agit de faire un village autant de militaires qu'il est possible. Donc, on va venir à bout de cette insécurité. Sinon, c'est très grave. C'est très grave parce que Kourouma, à Tegré Moussa, c'est encore au centre. Ça, c'est dans le cercle de Nyono. Donc, moi, je pense que c'est plus que le centre, c'est même le sud. Voilà. Il faudrait militariser le pays. Ça, c'est mon point de vue. Moi, aujourd'hui, aux commandes, je ferais que chaque village dans la région de Sigoué, dans la région de Mopti, ait des militaires, autant de militaires qu'il est nécessaire pour assurer la sécurité de ces villages-là.
Alors, Monsieur Boukoum, en tant que journaliste qui excelle au centre du pays, que pensez-vous de ce que Monsieur Koulibaly vient de nous dire ?
Bon, actuellement, pour tout le monde connaît, le centre du Mali, précisément dans la région de Mopti, c'est la zone qui se trouve dans plus d'insécurité que toutes les parties du Mali. Parce que quand tu prends à partir de cette de Guinée, Ténékou, Louarou, Douanza, Dika, Kourou, Bankas, même les zones exondées font partie aujourd'hui des zones les plus insécurisées du Mali. Donc, c'est une situation. Pardon, c'est une situation qui est très, très dramatique, eu égard à des attaques et des assassinats ciblés qui se passent à travers la région de Mopti. La générale Vette qui tout de suite la semaine dernière à Soumadougou. C'est un peu ciblé à Soumadougou où ils ont assassiné un porteur de l'époque. Donc, c'est pour nous dire que l'ensemble de la région de Mopti souffre aujourd'hui de toute l'insécurité. Et j'ai dit, Soumadougou, vraiment, à Guinée, le mardi, il y a eu ce problème. Donc, c'est pour vous dire que la situation est un peu compliquée dans la région de Mopti.
D'accord. Alors, Monsieur Escoba, qu'en dites-vous ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas être trop alarmiste. Et le Premier ministre, qui vient d'être fraîchement nommé, a promis des mesures fortes, n'est-ce pas, pour ramener la sécurité. Et je pense que les nouvelles sont déjà assez bonnes. Puisque avant-hier, entre Ansongo et Ndiliman, entre Ansongo et Meneka, dans le secteur d'Ndiliman, l'armée malienne a porté un grand coup aux terroristes. 13 terroristes, n'est-ce pas, avaient tenté de dépouiller des forains de tout ce qu'ils ont. Donc l'armée est venue à temps, on les a encerclés. Ils ont été désarmés et conduits à Gao. Et récemment, entre Djenné, dans le secteur de Djenné également, une escouade de la garde nationale a été attaquée par des terroristes, un garde a été tué, un autre garde a été blessé, mais pratiquement tous les terroristes ont été tués. Donc, cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'État doit encore poursuivre les efforts parce que il y a, je crois, 5 ou 6 jours de cela, à Tombouctou, un douanier a été tué. Hier également, à l'entrée de Tombouctou, un gendarme a été tué. Donc, tout cela prouve que l'État doit faire des efforts. Les partenaires du Mali, les forces internationales qui sont présentes dans le pays, n'est-ce pas, doivent aussi faire des efforts. Vous savez que hier, j'écoutais RFI quand on disait que et il y a 1 million de soldats maliens, n'est-ce pas, qui vont se déployer dans le centre, n'est-ce pas, pour tenter de ramener la paix et le calme. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a décidé de mettre en place des bureaux itinérants, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter un certain nombre de solutions aux problèmes auxquels les populations sont confrontées. Ces bureaux, ce seraient des bureaux avec des moyens sur le plan de l'éducation, sur le plan administratif et sur le plan de la santé. Mais des efforts restent à faire pour que vraiment l'insécurité soit un lointain souvenir. Et pour ça, je crois que l'État est en train de compter d'abord sur les armées maliennes, ensuite sur la force conjointe du G5 Sahel, sur l'AMINUSMA et sur Barkhane. Barkhane qui récemment a mené des opérations vers les frontières du Burkina et du Niger.
D'accord. Alors, M. Sinaba, partagez-vous le même avis que M. Koulibaly, M. Bokoum et M. Escobar?
En partie.
Et pourquoi? Oui.
C'est vrai, il y a l'aspect militaire, mais il faut reconnaître que ces terroristes, moi je les appelle comme tels, ont eu à un certain moment donné du répondant au sein de la société. Donc il faut une sorte de déradicalisation. Que tout n'est pas forcément militaire. Maintenant, je ne suis pas autant optimiste que Badou, quand il dit qu'il ne faut pas dramatiser, je pense qu'il y a lieu de dramatiser. La situation, elle est dramatique. Maintenant, les mesures fortes, entre guillemets, moi je me demande pourquoi avoir mis tout ce temps pour mettre en œuvre ces mesures fortes-là. Je préfère voir ces mesures fortes se réaliser, se concrétiser sur le terrain pour pouvoir véritablement me prononcer. Sans quoi, je me dis pourquoi avoir mis tout ce temps, parce qu'il faut reconnaître que depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar qui est en démission maintenant, la situation malheureusement elle ne fait que se détériorer.
Oui, mais parce que la communauté internationale ne joue pas franc jeu.
Ça c'est un autre débat, mais nous-mêmes à notre niveau.
Monsieur Koulibaly,
je n'ai pas terminé mon raisonnement.
Tout le problème,
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
La communauté internationale,
on ne va pas éternellement continuer à critiquer l'opinion internationale sans nous remettre en cause
nous-mêmes. Hier seulement, la communauté internationale a reçu la CEMA. Mais ça c'est quoi,
Monsieur Koulibaly?
Mais
je vous en prie.
Fou de nous.
Je vous en prie.
Les informations d'après ce que je sais,
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
C'est l'ONG qui les a reçus. Ça, je ne défends pas la communauté internationale, bien au contraire, mais je pense qu'à notre niveau, au niveau national, au niveau africain...
Mais il y a eu beaucoup d'efforts.
Des efforts qui, malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas
eu l'accompagnement de la communauté internationale.
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
Il y a des jeux d'intérêt.
Je vous en prie, je vous en prie.
Il faut dénoncer ces jeux d'intérêt.
J'arrive. Donc, pour revenir à ces mesures dites fortes, je pense qu'il va falloir attendre encore, voir réellement ce qu'elles vont donner sur le terrain, parce que je ne suis pas vraiment, vraiment très, très optimiste par rapport à ça. Mais une fois de plus, le tout sécuritaire n'est pas la solution. Il faut, quelque part, jouer sur les sensibilités et aussi également revoir certains comportements. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, je ne sais pas si je le dis sur ce plateau, je n'ai pas
fini. Monsieur Koulibaly, je vous en prie, nous allons revenir à vous. Monsieur Koulibaly,
oui. Qui sont là pour anéantir l'insécurité.
Monsieur Koulibaly,
c'est ça,
je n'ai
pas fini mon raisonnement. Parce qu'il y va de leur pérennisation ici chez nous.
Je n'ai pas fini mon raisonnement.
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
C'est là le temps de revenir sur cet aspect. Il y a un autre aspect aussi qui est là. Je me rappelle, il y a eu une attaque dans une localité que je n'ai pas citée. En tant que correspondant d'agence et beaucoup d'autres correspondants, on a tous traité l'information sous l'angle de l'attaque terroriste. Mais après, nous avons appris, et de sources encore plus vérifiées, qu'en réalité, c'est des habitants qui sont excédés, qui se sentent embrigadés, qui se sentent persécutés par les représentants de l'État, les forces de l'ordre. Donc, ils ont eu un règlement de compte. En réalité, c'était plutôt des représailles des populations locales contre ces agents de l'État, ces agents de sécurité de l'État, que
Monsieur Kribel, des terroristes.
Donc, je pense qu'à ce niveau aussi, il appartient à l'État de mettre ces gens de sécurité-là dans les conditions pour qu'ils ne puissent pas avoir des abus sur ces populations-là.
Oui,
c'est regrettable. C'est regrettable. C'est
là,
une réalité. C'est une réalité.
On est entre nous, Maliens. Malheureusement, les Maliens soient loups pour des Maliens.
Ah, c'est ce que tu penses. Mais moi, je parle de la réalité. Je parle de la
réalité.
De ceux-là qui ont vécu les événements. Je ne vais pas entrer dans certains détails.
Oui, je vous en prie. Alors, Monsieur Bokoum, depuis Mopti, selon vous, peut-on s'attendre à des résultats concernant cette vaste opération qui sera lancée bientôt?
Bon, on l'espère beaucoup au niveau de notre région. Déjà, on a les prémices à l'heure où je vous parle. Le gouverneur serait à Mopti pour ses mesures sécuritaires, à Timbuktu plutôt pour ses mesures sécuritaires. Mais moi, je crois que on a beau entendre ces discours, on espère bien que ces mesures annoncées par le gouvernement vont avoir effet. Et nous, qui sommes dans le centre, plus précisément dans la région de Mopti, nous savons comment la population souffre par cause de cette insécurité. C'est ce que je dis aujourd'hui, selon les informations qu'on a reçues de l'autre côté de Guinée, les terroristes auraient envoyé une correspondance ou bien un message plutôt aux forces de sécurité au niveau de Guinée qui vont venir dans la ville. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, malgré l'annonce de cette mesure, et si ça se tient à une simple annonce, on va arriver à la case départ, parce que Nabal l'a dit depuis très longtemps, on a beau dire qu'on va combattre ces gens et ça a été l'une des bases même de l'élection du président Ibeka, mais jusqu'à présent on tient des beaux discours mais les actes tardent à venir. Mais nous on espère quand même que ces mesures annoncées par le premier ministre qui était même dans le gouvernement et ministre de la Défense, je ne sais pas pourquoi il n'a pas annoncé ces mesures jusqu'à maintenant, en tout cas on espère que ces annonces vont se concrétiser et ça va être un peu un ouf de soulagement pour la population. Sinon, en tout cas, la région de Mopti est très martyrisée et tout est arrêté en ce moment. Donc, pas d'activité, en tout cas, en dehors de Moptiville, dans les cercles qui se trouvent dans la zone exode, hormis les chefs-lieux des cercles, on ne peut mener aucune activité, aucune administration n'est présente dans ces différentes localités. Donc, c'est pour vous dire que les mesures, on les a attendues, on espère que ça va se concrétiser, mais en tout cas, il faut joindre l'accès à la parole.
Oui, mais le Premier ministre avait annoncé ces mesures dures ici à la maison de la presse lors d'une conférence de presse. Il est venu, il a fait une conférence de presse, il dit que l'armée malienne doit être à la défensive. Et c'est maintenant, il est aux commandes, c'est ça qu'il va mettre en œuvre. Maintenant, qu'est-ce que... Alors la population, Monsieur Bokoum doit collaborer. Ici à Bamako, dans les quartiers périphériques de Bamako, il y a eu de l'insécurité qui a été combattue avec des voleurs qu'on a pris hier, avant-hier et l'autre jour. Parce que la population a collaboré, il faudrait que nous prenions ces militaires-là pour des nôtres et qu'on leur donne des informations, les vraies, pour leur permettre de combattre cette insécurité. Si le Premier ministre là a dit ça aujourd'hui, il l'avait dit bien avant, j'étais à la conférence de presse. Ce jour-là, il était là avec une carte. Donc, on doit applaudir son avènement à la tête de...
Oui, Monsieur Koulibaly. Monsieur Nafian, excusez-moi, Monsieur Boukou me réagissait. Oui, allez-y.
Je suis d'accord en partie avec M. Koulibaly qui dit que la population a collaboré. Oui, la population a collaboré, ça a déjà des résultats. Ceux qui sont dans le centre sont réputés être entre griffes des djihadistes, à connotation terroriste. Donc, je peux vous dire que c'est très différent. L'insécurité qui règne dans le centre du Mali est différente de celle de Bamako. Je m'explique. Par exemple, tu vois, les enfants du terroir, c'est les enfants du terroir qui ont pris des armes pour se défendre. Parce qu'il y a eu tellement de raquettage, il y a eu tellement d'injustice. Dans la plupart des cas, ce n'est pas les djihadistes, c'est les gens qui peuvent se défendre contre l'injustice. connue par les représentants de l'État dans le centre. Donc, ici, la nature de l'insécurité est différente de Bamako. Tu prends dans la zone de Tchad de Ténégou, tu trouveras que, par exemple, quand tu vois dans le marché, le mardi, c'est le marché de Djingori, tu verras plus d'une trentaine de jeunes avec leurs armes, c'est des jeunes du terroir. Donc, c'est pour comment la population va collaborer. C'est cette même population qui est enrôlée. Donc, c'est très différent de Bamako. Il faut qu'on soit clair, il faut départager les choses. Deuxièmement, les gens comprennent pour vraiment aller négocier ou pour parler au nom des organisations. C'est des gens qui ne sont pas très crédibles auprès de ces populations. Par exemple, les cantons existaient, les chefs des cantons existaient, ils ne sont plus légaux aujourd'hui. Mais c'est des gens, quand ils parlent, et toute la population les écoute. Mais on les a écartés dans le processus de négociation, on les a écartés totalement. Il y a des marabouts, quand ils parlent aux gens qui ont des armes, on suppose que, selon les informations, on dit que c'est des talibés, des marabouts qui suivent Amadou Koufa. Mais il y a des marabouts, quand ils parlent, il y a la majorité des marabouts de la région qui vont les écouter, qui vont les suivre. Et ces gens sont écartés parce qu'on dit qu'ils sont au sol, quand même représenté par le Haut Conseil, et le Haut Conseil, et il qualifie même le Haut Conseil islamique des musulmans. Donc c'est pour vous dire que la nature du centre de Mopti et du centre du Mali est très différente de Bamako.
Monsieur Koulibaly, je vous en prie. Monsieur Escoba.
Oui. Cette situation d'injustice de la part des représentants de l'État dans ces zones-là, est récente ou bien elle est aussi vieille que ces régions ont existé? Si c'est le cas,
Monsieur
comment on faisait pour combattre ça?
Monsieur Koulibaly, je vous en prie. Monsieur Bokoum, je vous en prie. Monsieur Escoba, oui, allez-y.
Bon, moi, je pense que, parlant de cette insécurité, les armées maliennes, certes, elles ont de l'expérience maintenant, parce que nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Mais le problème fondamental, c'est quoi? Il faudrait que les forces en présence mutualisent leurs efforts. Il faut que les armées maliennes, la force conjointe du G5, c'est la MINUSMA, la force Barkhane, les pays frontaliers du Mali qui ont également des armées, il faut que vraiment ils coopèrent ensemble, qu'ils travaillent en parfaite symbiose, n'est-ce pas, et faire des échanges d'informations pour que le travail puisse marcher sur le terrain. Vous savez que quand on parle d'insécurité, les gens se focalisent seulement sur le Mali. Le Mali n'est pas le seul pays qui est touché par l'insécurité. Il y a un ou deux mois, du côté du Burkina, dans le secteur de Nansumbu, un bateau antiterroriste de l'armée burkinabé a eu maille à partir avec des terroristes. Donc 12 de ces éléments ont été tués. Du côté du Niger également, l'autre jour, vers la frontière du Niger, 3 combattants du Gatcha ont été tués. Donc, ça veut dire que cette insécurité ne peut être circonscrite par la seule armée malienne. Donc, il faut que toutes ces forces, n'est-ce pas, s'associent pour qu'on puisse vraiment venir à bout de cette insécurité.
Les forces ne jouent pas franc jeu.
Il y a un aspect.
Il y a munissement, les forces barganes, ne jouent pas franc jeu.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Mais moi, j'ai les preuves que si ces forces étrangères qui sont là jouent franc jeu avec l'armée malienne et l'armée malienne joue avec la population, on serait à bout de l'insécurité aussi vite qu'on le souhaite. Mais il est à noter que ces forces sont des forces d'occupation qui n'ont pas intérêt à ce qu'on circonscrive cette insécurité, sinon ils vont partir. Mais ça, quand même, c'est une vérité qu'il faut étaler au grand jour.
Monsieur Nafia,
je pense que c'est une analyse qui est subjective.
Non, elle n'est pas subjective.
Je pense que tu n'as pas avancé d'éléments concrets, de preuves palpables pour dire que ces gens-là sont de connivence avec les
terroristes. Ils ont les moyens de renseignement. Ces moyens de renseignement, ils peuvent mettre ça à la disposition de l'armée malienne. Et l'armée malienne, de concert avec la population, peut dénoncer et peut détecter les rebelles. Mais ce n'est pas le cas.
C'est le cas.
On a vu combien de fois que l'armée malienne, n'ayant pas les renseignements nécessaires, se laisse prendre à dépourvu. Pendant que les forces internationales ont ces renseignements sur ces rebelles-là. Combien de fois ça s'est passé? Ça, au moins, tu es au courant de ça.
Ça au moins, tu es au courant de ça. L'armée malienne en train d'escorter des convois de la MINUSMA fassent l'objet d'attaques. Vous pensez que la MINUSMA va comploter pour que ses agents...
Non, il ne s'agit pas de comploter, il s'agit de jouer franc jeu. C'est-à-dire d'être sincère avec l'armée malienne et permettre à l'armée malienne de combattre le moment où elle doit combattre. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'armée malienne est toujours prise à dépourvu par ses rebelles pendant que les forces étrangères ont les renseignements nécessaires. Ils ne donnent pas ça, ils ne mettent pas ça à la disposition de l'armée malienne.
Ces mêmes forces
étrangères. Oui, mais parce que c'est par leur hypocrisie qu'ils périssent. Par leur hypocrisie.
Monsieur, je
vous en prie. Ce que moi j'aimerais ajouter, c'est que le problème, quel est le problème fondamental? Le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui sont susceptibles de donner les renseignements nécessaires ne sont pas en sécurité. On assiste de plus en plus à des assassinats ciblés, surtout dans le centre du Mali. Donc, cela pose énormément de problèmes. Ensuite, lorsque, dans le cadre de l'opération Aoubi, la force du G5 Sahel a mené des patrouilles dans la zone Mali-Niger, n'est-ce pas, la plupart des individus qui ont été arrêtés, n'est-ce pas, étaient des combattants de la CMA. Quand les enquêtes ont été menées, on a démontré que c'est des combattants de la CMA. Bon. Quelqu'un que vous prenez avec une arme, dans un contexte où un accord de paix a été signé, dans un contexte où on doit cantonner, n'est-ce pas, les unités combattantes du côté des groupes armés. Et si de telles pratiques se passent, ça crée la confusion. Donc, moi, je me dis qu'il faut, encore, je reviens sur la notion de l'information. Il faut que les informations soient mutualisées. Il faut que toutes ces forces-là, n'est-ce pas, travaillent ensemble, main dans la main, pour pouvoir amener l'insécurité, pour pouvoir résorber l'insécurité qui existe dans le pays. Sinon, le G5 Sahel serait une force de trop.
D'accord. Alors, la sécurisation du centre du pays et de l'ensemble du territoire malien contre les attaques asymétriques ainsi que l'accompagnement des prochaines élections figurent parmi les priorités de l'AMINUSMA en 2018. Les responsables de la mission onusienne l'ont déclaré hier au cours d'un point de presse tenu à Bamako. Écoutons les propos du général de Gounik, le commandant de la force de l'AMINUSMA.
Les défis auxquels nous devons faire face actuellement et auxquels nous devrons faire face dans les mois qui viennent encore, des menaces en tout genre, menaces de type AED, engin explosif improvisé, ou menaces de type attaque directe ou attaque complexe, c'est-à-dire combinant des attaques directes avec du feu direct, combinant du feu indirect avec des mortiers, combinant aussi des AED. C'est une menace permanente sur différentes zones du territoire. Un autre défi auquel nous devons faire face, eh bien, c'est la lenteur dans l'implémentation des accords de paix. Et puis un autre défi, faire l'effort sur la région du centre, le mécanisme opérationnel de coordination. Les élections régionales en avril, les élections présidentielles un peu plus tard dans le courant 2018.
Alors, Monsieur Bokoum, vous venez tout de suite d'écouter le général de Gounik. Selon vous, quelle est votre observation, disons, de ces propos?
Si la sécurité des élections et la sécurisation, moi je dirais que les élections, en tout cas, quand je parle au niveau du centre, hein, les élections sont presque inscrites à l'état où nous sommes. Maintenant, qu'est-ce que l'AMINUSMA va faire? Déjà, elle a un mandat rigoureux, un mandat qui leur permet quand même, qui les renforce dans leur attaque pour se sécuriser d'abord, parce que c'est leur souci, sécuriser la population. Mais est-ce qu'ils vont le faire de tourner dans la ville? Est-ce que ça peut sécuriser l'État? Je dirais non. Est-ce qu'ils vont aller derrière le fleuve pour aller sécuriser d'abord et passer aux élections? Je me pose cette question. En tout cas, l'interrogation reste comme ça. Une belle déclaration, mais la mise en application va être très difficile, d'autant plus que quelqu'un l'a noté, chacune de ses forces a ses intérêts, notamment Balkan, MINUSMA et G5 Sahel qui est venu aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas la sincérité entre ces différents partenaires, je crois que la sécurisation de nos villes va être très compliquée, à plus forte raison parmi les élections. J'espère que les élections se tiennent dans la paix, la qualité de la transparence, mais tant que cette situation n'est pas décantée, ces déclarations, ces simples déclarations ne permettent pas à espérer sur un année meilleure par rapport à ces élections, par rapport à tout ce dont le général vient d'indiquer.
Alors oui, M. Koulibaly.
Je tiens ma position. Ainsi, ces forces internationales ont intérêt à ce que les élections se passent dans les bonnes conditions. Elles se passeront dans les meilleures de conditions possibles. Mais si c'est le contraire, elles vont tout faire pour saboter. Mais nous, on n'en est pas là. La démocratie a des piliers. L'un des piliers les plus forts de la démocratie, c'est la tenue des élections à date requise. Donc, nous voudrions que notre démocratie fonctionne à merveille. En 2018, que les trois élections se tiennent à date et dans les meilleures conditions possibles. Nous en avons les moyens à partir de nos soldats. Tu sais, les FAMA sont des véritables guerriers. Nous sommes une vieille nation de guerre. Ces militaires, ces FAMA seuls peuvent assurer la sécurité pour la tenue des élections. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on ne nous laisse pas la main libre. Cette communauté internationale, à travers la MINUSMA, les forces balkanes et G5, vont faire l'alarmisme, faire en sorte qu'on puisse croire que c'est la fin du monde au Mali, rien ne marche pour qu'on puisse prolonger. Mais ce mandat de la MINUSMA, nous, on n'en est pas là. On veut la quiétude de nos populations. Voilà. Donc, la démocratie voudrait que 5 ans. C'est fini, les élections doivent avoir lieu, elles auront lieu. L'État malien va mettre le moyen. En tout cas, à travers les FAMA, on pourra réussir. Mais s'il y a autre chose, cette chose étrangère, d'une main tachée de sang, va venir de l'extérieur et à travers la communauté internationale. Et qu'il est temps de dénoncer. Il faut dénoncer. Oui, monsieur. Pour qu'on nous laisse tenir nos élections, cette insécurité. D'accord, en 2013, on était plus en insécurité que maintenant.
Non.
Mais monsieur,
en 2013, on était plus. Mais écoutez, à l'hôtel Ara du Son, quand je montais dans les dédales, j'attendais la mort de Claude Vernon et consorts. Mais pour autant, on a tenu les élections. Il n'y avait pas plus d'insécurité que l'on tue des journalistes français à Kidal. Mais on a tenu les élections.
Voilà. Oui, monsieur Lafia, allez-y.
D'abord, il faut arrêter d'accuser toujours les autres. Qu'on ait le courage.
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
Quelque part qu'on se remette en cause. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que quelque part, l'État central a failli.
Ah, mais non.
À travers
mais
son absence.
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
À travers son absence.
Aussi profond que quiconque à la place de ses autorités aurait connu les mêmes problèmes.
Je vous en prie,
pas forcément. Il fallait essayer les autres.
Mais on ne peut pas essayer tout le monde à la fois.
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
Je le disais et je le maintiens, c'est parce que quelque part l'État central a failli à travers l'absence de représentants de l'État. Dans ces zones, les préfets sont partis. Les sous-préfets sont partis, les enseignants sont partis, tout le monde est parti. On a laissé ces gens-là. Quelque part, ils vont tourner vers des gens à qui ils se retrouvent certainement. Il y a cet aspect. Pour la tenue des élections, c'est une question d'honneur pour le président Ibeka.
Mais pas pour le président Ibeka.
Attendez, je n'ai pas fini mon raisonnement. Ce n'est pas le Mali qu'on lui a confié quand il venait à la tête du Mali en 2013. Il a laissé les choses, on peut le dire ainsi. C'est vrai, il y avait des difficultés dans le nord.
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
Mais le Mali était en guerre. Après, le Mali a été placé sous tutelle.
Monsieur Koulibaly,
ça c'est des propos.
Nos autorités n'ont pas les mains libres là.
Nous allons en revenir à vous, monsieur Escobar.
Je n'ai pas fini mon raisonnement.
Ok, allez-y.
Ce que je voudrais dire, c'est que c'est une question d'honneur au-delà de la tenue des élections. Parce que ce n'est pas ce Mali qu'on avait. Au moins, il y avait une représentation, même si on dira qu'elle était symbolique à Kidal. Il y avait les représentants de l'État qui sont dans le centre. Aujourd'hui, ils ont tous fui.
Mais qu'est-ce qui n'a pas marché?
Non, la présence de l'État dans ces zones-là, ça doit être statique, Blo.
Oui, monsieur Lanfian, nous allons revenir à vous.
Ça, il n'y a pas de discussion.
Oui. Monsieur Escobar, oui, allez-y.
Moi, je pense que c'est un énorme défi pour le président de la République parce que lors du discours du Nouvel An, il a promis que toutes les élections vont se tenir. Et pour que ces élections puissent se tenir, il faut que la sécurité puisse revenir dans le centre et le nord du pays. Et ce rôle revient naturellement aux forces armées maliennes qui actuellement ont plus d'expérience en matière de guerre contre le terrorisme que n'importe quelle armée de la sous-région. Au-delà de cela, il faut que la MINUSMA, elle aussi, s'assume. Nous, de notre point de vue, les forces de la MINUSMA rarement mènent des actions offensives. Elles se contentent de se bunkeriser.
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
Elles se contentent de se bunkeriser. Elles ne font que riposter si elles sont attaquées. Donc, il faudrait que cette force de la MINUSMA, qui est forte de 14 000 hommes, puisse se déployer sur le terrain, puisse épauler l'armée malienne. Il faut que la force parallèle aussi, qui est la force Barkhane, puisse mieux jouer son rôle. Parce qu'il ne s'agit pas de mener une guerre à la ronde. Il s'agit de passer localité par localité, n'est-ce pas, et d'adopter la même méthode que les terroristes. D'ailleurs, je crois que la vaste offensive que l'armée régulière du Mali s'apprête à lancer entre dans ce cadre. Donc, les militaires maliens seront dotés d'engins à deux roues, n'est-ce pas. Ils adopteront la même tactique que les terroristes pour pouvoir résorber l'insécurité. Pour y revenir aux élections, n'est-ce pas, pour que ces élections puissent avoir une certaine crédibilité, il faut impérativement que ces élections se passent sur l'ensemble du territoire national. Donc, la communauté internationale a une lourde responsabilité, parce qu'elle est venue pour accompagner le Mali, elle est venue pour aider le Mali à restaurer sa souveraineté. Donc, elle ne peut pas jouer double jeu. Comme l'a dit Koulibaly, certes, je prends par exemple le cas de la force Barkhane, c'est vrai, elle fait du bon travail, mais quelquefois, n'est-ce pas, elle a un agenda caché. C'est pas normal. Quand vous êtes dans un État souverain, quand vous venez pour aider un pays, pour que ce pays retrouve la stabilité, vous devez donner le meilleur de vous-même, n'est-ce pas, en appuyant tous ceux qui sont sur le terrain et qui sont susceptibles de ramener le calme.
Il n'y a pas de soldat malien qui n'a pas fait le Nord. Tout le monde connaît le Nord là-bas. Parmi ces militaires, les femmes, donne-leur les renseignements et laissez-leur faire. Ils vont venir à bout.
C'est-à-dire là où je ne suis pas d'accord.
Mais on les limite, on les empêche.
Je pense qu'il ne faut pas être trop philanthropique. Et nous sommes. Je m'en prends souvent au pays de la CEDEAO. Parce qu'en janvier 2012, quand la crise éclatait, n'est-ce pas, les pays de la CEDEAO, certains États voisins du Mali, auraient pu voler à notre secours. L'exemple de la République démocratique est là. En août 1998, quand les rebelles ont tenté de renverser Laurent Désiré Kabila, on a vu les forces angolaises intervenir, on a vu les Zimbabwéens intervenir, on a vu les Tchadiens venir. Donc, l'ensemble des forces de la SADC se sont associées à l'armée congolaise pour circonscrire le Mali. Donc, le Mali n'a pas bénéficié de ça. Donc, le Mali est victime d'une situation. Il faut que les gens le sachent. Nos États voisins aussi ont quelque part failli.
Oui, allez-y, monsieur Lassalle.
Le moyen à ce niveau, parce que je me rappelle, il y a plusieurs CONOPS. Chaque fois, on parlait de CONOPS. Pour planifier l'attaque, la riposte, mais ils n'ont pas pu. Et à la limite, on s'est rendu compte que c'est les moyens qui faisaient réellement défaut. Et on a vu avec l'opération Serval, même la France à un moment donné a dû réfléchir par deux fois.
Non,
je pense que c'est plutôt, il faut analyser sous l'angle du manque de moyens que plutôt du manque de volonté à mon avis.
Ce que j'aimerais ajouter aussi, souvent les Africains ont tendance à mettre dans leur tête que sans les forces occidentales, on ne peut pas faire grand-chose. Les Américains sont venus en Somalie, mais ils ont lamentablement échoué. Mais la mission qui est présentement en Somalie est en train de faire un excellent travail. Ce sont des contingents exclusivement africains qui sont en train de combattre les Chebab. Donc c'est pour vous dire que le G5 Sahel, si elle monte en puissance, s'il atteint un certain niveau, le G5 Sahel, lui seul, peut combattre le terrorisme.
Non, mais pas l'armée malienne.
Il faudrait que cette
réunion. Pas l'armée malienne, encore moins les autorités maliennes. Mais au moment où certaines régions du Nord sont tombées, c'était le moment du Niger, c'était le moment où le Niger, l'Algérie, le Burkina Faso pouvaient envoyer des forces pour aider.
Justement,
ils ne l'ont pas fait. C'est ce qu'il a dit.
Il préparait ça, mais en réalité, c'est les moyens.
Je le concepte, c'est là.
À la fin, on s'est rendu compte que c'est les moyens.
Cette situation a duré aussi longtemps.
Oui.
Alors, moi, je te dis aussi longtemps, au moins 3 mois, que le Mali tombait petit à petit. Aucun pays de la CEDEAO n'a levé le petit doigt pour nous venir en aide.
Monsieur Bokoum, êtes-vous avec nous?
Oui, je suis là.
D'accord. Alors, avant de clore ce chapitre sur l'insécurité au Mali, selon vous, comment mettre fin à ce cycle de violence?
Je suis là parce que je crois que dans un débat, on doit s'expliquer toutes les campagnes. Chacun doit avoir la parole pour réagir. Ça se fait entre parenthèses. Pour conscrire cette insécurité, d'abord, le rôle le revient à l'État malien, d'abord, à nos forces armées et de sécurité. Donc, il faut que l'État mette les moyens et forme nos agents et vraiment se focalise beaucoup, beaucoup sur les femmes pour qu'ils puissent jouer leur rôle régalien. Un deuxième aspect de la chose, je l'ai dit, on a des forces étrangères en place. Comme nous, nos forces vont aider ailleurs, ça a été le cas en Centrafrique, etc. Donc, ces forces, l'important, c'est d'être sincère, d'essayer de collaborer avec l'armée malienne, se partager des informations, se donner des idées, travailler en symbiose pour pouvoir vraiment éradiquer ce mal. Sinon, l'État malien à lui seul ne peut pas lutter contre le terrorisme. Même les Américains à eux seuls ne peuvent pas lutter contre le terrorisme. Donc, c'est une mutualisation des forces de façon sincère pour qu'on puisse venir à bout. Le tout donc, doit tourner autour de l'État central et l'État doit être au milieu pour piloter toutes ces actions, les coordonner de façon vraiment à ce que la population puisse avoir la paix avec cette insécurité et qui ne fait que grandir du jour au jour.
C'est beaucoup, oui, je vous concède cela parce que nos FAMA, les formations que ces FAMA subissent à l'EITM, à Koulouba, à Kouloukoro, cette formation, on ne leur permet pas d'appliquer ça de façon efficiente sur le terrain. On les empêche, on les éparpille, alors qu'ils ont été formés en groupe et selon des objectifs bien précis. Mais à les entendre, ils ne sont pas libres sur le terrain pour appliquer cette formation.
Je donne mon point de vue, il faut mutualiser les forces pour qu'on puisse vraiment venir à bout. Sinon, aucune force à elle seule ne peut circonscrire cette insécurité dans laquelle le Mali se trouve actuellement. Et aucun pays ne peut circonscrire à son insécurité à lui seul sans l'aide des autres. Donc, si les autres sont là, il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on collabore, il faut qu'on se partage des impôts pour vraiment qu'on harmonise nos actions afin de trouver une solution durable à ce problème-là.
À présent, parlons de la migration. Deux jours de deuil national ont été décrétés par le président Ibeka. Cette mesure intervient suite à la mort de 48 migrants maliens dans la mer dimanche dernier en tentant de regagner l'Europe. Alors, M. Koulibaly, qu'est-ce que vous pensez de cette problématique de la migration ?
Mais vous savez que c'est un problème dramatique, mais qui a été davantage dramatisé par l'Occident, par l'Europe. L'Europe a érigé, n'est-ce pas, des murs électriques pour nous empêcher de partir. En quoi faisant ? En faisant en sorte que les migrants africains soient pris pour des esclaves. C'est une façon de nous taper dans notre conscience. Et ces naufrages-là, ils en sont responsables. Parce que dès lors qu'ils ont mis en place, à partir des pays au bord de la Méditerranée, des centres de rétention des migrants, ils doivent être en mesure de suivre les migrants, les empêchant ainsi d'aller au naufrage dans la mer. Mais ce n'est pas le cas. On est surpris que ce cas soit survenu. Si ce cas-là est survenu, c'est que l'Occident en est responsable. Ils ont fait exprès pour tuer nos migrants afin de nous taper davantage dans notre conscience. Sinon, ils ont donné de l'argent à la Libye pour empêcher les migrants de traverser. Ils ont donné de l'argent au Niger, à beaucoup d'autres pays. Mais pourquoi cet argent qui a été donné n'a rien servi ? Et encore, on a des migrants qui périssent sur la Méditerranée. L'Occident est responsable, la France est responsable, la communauté internationale est responsable. L'histoire va en juger. Ça, c'est clair.
Okay. Monsieur Lafia, qu'en dites-vous ?
Moi, toujours, on va revenir sur le même débat, et sur de cette génération de jeunes Africains qui ont le courage de regarder les choses en face et de se remettre en cause.
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
Vous avez parlé de cette façon de faire de
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
La parole à moi. Il faudrait qu'on ait ce courage-là. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là partent ? C'est parce que quelque part, une certaine élite a failli.
Mais il ne faut pas fuir parce que ça brûle sur toi.
C'est parce qu'une certaine élite africaine a failli. Parce que malheureusement, il y a eu une mauvaise redistribution de la richesse qu'une certaine élite a accumulée et s'en est accaparée. Premier problème. Deuxième problème, l'Occident a aussi des problèmes. Ces pays-là, ils ne veulent pas. Ils ont des soucis. Ils ne veulent pas de ces immigrants-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Mais il ne faut pas nous tuer pour nous décourager.
Justement.
Ils sont passés par des lois. Et ils doivent être dans la légalité.
Non, je parle
de... Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
Non, là, ça, c'est le crime.
C'est plus qu'un crime.
Ne déforme pas mes propos. Je suis contre cela. Mais ce que je voudrais dire, quelque part, qu'on ait le courage de nous remettre en cause. Et aussi, là où on peut remettre en cause l'Occident, à mon avis, c'est le fait que ces Occidentaux nous imposent certaines mesures dans le cadre du développement.
Monsieur, cet Occident dont tu parles, nous l'avons construit ensemble. Des mesures qui sont des natures
à nous maintenir dans cette situation de dépendance. Là, je suis contre. Mais dire qu'ils ont fermé leurs frontières, ils ont aussi des soucis. Si on doit les accuser, c'est peut-être le fait qu'ils sont là à tordre la main à nos dirigeants, à imposer certaines choses. Là, on peut le reprocher. Et ce que vous venez de dire tout de suite, je suis contre. Et je pense que quelque part aussi...
Monsieur Koulibaly, je vous en prie.
Qu'on essaye, parce que jusque-là, la dénonciation, quand on dénonce, par exemple, je vais mettre l'accent sur le côté écriture, les écrivains, quand on regarde ceux qui ont beaucoup parlé de ces sujets-là, ont beaucoup plus, c'est vrai, ils dramatisent, mais il y en a qui ont essayé de donner une certaine forme, un certain visage humain. Je pense qu'il faut dénoncer, il faut dramatiser pour décourager les gens. Et il y a aussi le porteur du message. Parce que pour convaincre ces jeunes-là de ne pas aller en Occident, il faudrait qu'il y ait des personnes appropriées dans la mesure où moi je ne peux pas.
Mais la liberté de
Monsieur Koulibaly, je vous en prie. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je vous en prie. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Alors, Monsieur Bokoum, êtes-vous du même point de vue que Monsieur Lanfia?
Par rapport à l'immigration, c'est vrai, c'est presque une culture, en tout cas chez Mali, mais il faut s'attaquer à la racine du mal. Pourquoi les jeunes partent? Il faut se poser la question. Il faut qu'on s'arrête un moment et faire notre mea culpa. Pourquoi les jeunes sortent pour aller se faire tuer dans la mer? Pourquoi les jeunes sortent pour aller se transformer en esclaves dans certains pays, surtout pays africains? Donc, la racine du mal, c'est quoi? C'est le manque d'emploi, le chômage. Donc, il est temps que les dirigeants africains fassent leur mea culpa. Qu'est-ce que nous avons fait pour cette jeunesse pour qu'elle ne puisse pas aller se faire tuer? Cette interrogation, moi, en tout cas, ici, j'interpelle tous les dirigeants africains. Chacun a critiqué ce acte qui s'est passé tout de suite en Libye par rapport à la vente des Genèves. Tout le monde critique le naufrage, dire oui, c'est l'Europe qui a. D'accord. L'Europe a ses intérêts. Ils défendent leurs intérêts. Nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher nos jeunes d'aller? Quand il n'y a pas ce pays africain où le chômage n'atteint pas à un niveau vraiment extraordinaire. Donc, faisons votre mea culpa, laissons les autres, parce qu'eux, ils sont en train de gérer leurs problèmes. Demandons à nos dirigeants que nous-mêmes nous éligions ce qui se passe sur la base de la fraude, on peut le dire ainsi. Et chaque fois qu'ils reviennent, ils nous font des propositions, mais jamais des propositions ne sont pas concrétisées. On voit dans les services des recrutés qui continuent à travailler. Tu prends le cas du Mali, pratiquement toutes les institutions sont à la retraite. La présidence de la République jusqu'au conseil des collectivités, bon, rares sont les présidents qui ne sont pas à la retraite. Donc il faut qu'on fasse notre meilleur résultat et donner du travail aux jeunes, créer l'emploi aux jeunes pour qu'ils puissent rester. Vraiment, c'est la seule solution. Laissons l'Europe. L'Europe a ses problèmes, ils vont gérer leurs problèmes. Parce que c'est une façon de donner du travail à leurs jeunes qui sont là-bas. Et nous aussi, demandons à nos, exigeons plutôt à nos dirigeants de créer de l'emploi pour nous, pour que nos jeunes puissent rester dans nos différents pays africains. Donc, il est temps qu'on se retourne et qu'on fasse notre bien tout pas vraiment.
Ok, merci M. Bokoum. Alors, M. Escoba, qu'en dites-vous?
Bon, quelque part, j'embouche dans la même trompette que M. Bokoum quand il dit que le problème d'abord, c'est les dirigeants africains. Effectivement, les dirigeants africains ne font pas assez pour empêcher ces jeunes, n'est-ce pas, de traverser la Méditerranée. nous avons beaucoup de ressources. Ces ressources ne sont pas exploitées. Le peu des ressources qui est exploité est quelque part détourné. Au-delà de ça, l'Europe aussi a une très grande part de responsabilité dans ce qui se passe, parce que c'est l'Europe qui entretient toutes les guerres qui se passent sur le continent. Quand il y a une guerre civile dans un pays, naturellement, les gens vont essayer de fuir pour aller dans des endroits plus cléments. Il y a cet aspect. Et ce que j'aimerais aussi ajouter, l'Europe n'est plus cette terre promise. L'Europe même a des difficultés. L'Europe est en pleine récession économique. Je crois que hier, des pays du bassin méditerranéen, des dirigeants du bassin méditerranéen, l'Italien Gentiloni, le Grec Alexis Tsipras et le président français Macron ont tenu la rencontre autour de la migration. Et sur un point, ils n'ont pas pu s'entendre, ils n'ont pas pu s'entendre sur la question des quotas. Donc c'est pour vous dire que le problème de la migration est tellement compliqué qu'en Europe même, les pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord pour, n'est-ce pas, circonscrire le mal. Donc c'est très très délicat. Trump a dit hier que Haïti, certains États africains et le Salvador, c'est des pays de merde. Bon, quand ça arrive là, c'est extrêmement grave. Donc moi je pense que c'est aux dirigeants africains, n'est-ce pas, de prendre les responsabilité de faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes au chômage. Donc cela va peut-être en partie, n'est-ce pas, résoudre la crise. Les Européens, à chaque fois quand il y a des problèmes, ils viennent, ils font des dépenses, ils essaient de convaincre certains dirigeants d'empêcher les migrants d'aller.
Monsieur Escobar,
quelqu'un qui ventre vide n'a point d'oreille.
D'accord, merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Cela met fin à ce forum de la presse. Un grand merci à nos invités. Badou Escobar, directeur de publication du journal Carrefour. Boubacar Bokoum, correspondant du studio Tamani à Mopti, Lamfia Sinaba, journaliste écrivain, Abdoulaye Fama Koulibaly du journal Le Combat. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en nom de Gagny Kanté. La régie vidéo est assurée par Noundjiré. C'est une réalisation et une coordination de Mohamed Touré.
Le grand dialogue,
Sigi Kafoba
et Dewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry, Haloud Mambi.
Chienne Berry, Sigi Kafoba.